me permets une petite incursion dans cet épisode pour vous parler de mon prochain Weekend Mastermind les 15 et 16 juin prochains. Mon Weekend Mastermind, c'est quoi? C'est un événement unique en petit comité où je travaille avec une vingtaine de personal trainers, de propriétaires de studios, de box sur la croissance de leur business et l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site andypoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
Je pense aussi, là où c'est clair qu'ils ont peut-être aussi raison, c'est que les gérants n'ont pas payé assez. À un moment donné, il faut valoriser le travail. Parce que quand on s'occupe de l'humain, ça demande du travail, automatiquement. La préparation de séance, c'est la préparation de séance. Donc ça en fait partie, ça fait partie du temps de travail. La préparation de séance fait partie du temps de travail.
Donc, bon, la préparation de séance, moi j'ai fait beaucoup de Les Mills et je connais très bien le produit Les Mills. Il fallait aussi qu'on apprenne nos chorés, tu vois, si tu veux. Donc c'est pareil, ça fait partie entre guillemets intégrante du job et ça tu le sais quoi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un manque de dialogue de toute façon entre tous les acteurs, entre le patron, le manager du club, entre le personnel et tout ça, ce qui fait que en fait tout le monde essaie de tirer à son avantage le truc, alors que je pense que la meilleure solution c'est la communication et de si une des deux personnes se sent lésée, tu vois, si on a mal expliqué le truc et on se dit il est en train de me manfler ou souvent on se dit ouais, le personal training c'est facturé X euros à la fin, quand t'enlèves la TVA, s'il y a la TVA, quand t'enlèves les charges, quand t'enlèves tout ceci là à la fin, voilà ce qui reste. Et là ce qu'il explique au coach, le coach il est pas con quoi, tu vois, il va dire ah oui mais moi je pensais que sur X euros le club en touchait non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je pense que il y a aussi un flou où il y a un manque de communication.
Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Eway, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box crossfit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christophe Fontanelle, dirigeant de Coréo Concept, première salle sport santé labellisée en France. Sa vie est inspirante et nous fait prendre conscience de profiter de chaque instant de la vie et de se donner à fond pour accomplir sa vision. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christophe. La mentalité à avoir pour se sortir de toute situation, sa vision du concept sport-santé, comment devenir club ou coach sport-santé, l'intérêt de la formation, l'intérêt de se spécialiser, le métier d'éducateur sportif et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Christophe Fontanelle.
Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Christophe Fontanelle. Salut Christophe.
Salut Andy.
Première petite question simple, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Alors moi ça fait donc plus de 25 ans que je suis dans le milieu du fitness. J'ai débuté l'âge de 18 ans suite à un problème de santé. Donc chose que l'on va peut-être on va aller plus loin sur ce point-là parce que c'est à partir de là où j'ai eu le déclic pour mettre en place les choses que j'ai mises aujourd'hui. Ancien sportif de haut niveau en boxe, boxe pied-point, boxe française, kickboxing, full contact, etc. Et puis après, j'ai eu un BTS action commerciale. Et ensuite, je suis parti dans le milieu du fitness.
Ok, très bien. Et du coup, Christophe, avant ses 18 ans, avant le fitness ou autre, c'était qui?
C'était un sportif. C'était un sportif qui avait des problèmes pour prendre du poids, en l'occurrence. Donc, j'étais asthmatique et on m'a mis très tôt à l'activité physique. Je n'aimais absolument pas l'activité physique au tout début, lorsque j'avais 6-7 ans, parce qu'on m'y a mis de force. Et on ne m'a pas mis dans des bonnes conditions. On m'a obligé de faire du foot. Et moi, je voulais faire du karaté, du kung-fu, des choses comme ça. Sauf qu'il n'y avait pas ces choses-là à côté. Donc, j'ai mis en place les choses petit à petit. Et je me suis dit, tiens, un jour, je ferai du kung-fu, je ferai de la boxe pied-point. Chose qui est arrivée.
Cet amour des arts martiaux, du coup, ça c'était venu comment?
Oh, comme beaucoup, je pense. Bruce Lee.
Ah, ok, yes. Ouais.
Fan de Bruce Lee. Donc, moi, j'ai vécu dans un milieu rural, et il n'y avait absolument rien par le foot. Donc, je regardais des vidéos à l'époque. Alors là, c'est vieux, hein, mais des VHS où je faisais du ralenti pour faire, justement, pour mimer les actions pour modéliser, donc j'étais dans la PNL déjà, mais je ne le savais pas, mais pour modéliser l'action que faisait justement Bruce Lee dans ses films.
C'était la bonne époque, ça, je me souviens aussi. et Bruce Lee, effectivement, c'était. Ça me rappelle ma jeunesse, et je pense qu'on est dans les mêmes années. T'es de quelle année?
77.
77, yes, ok. Et du coup, tu rentres dans les arts martiaux, du coup, quand ça?
Alors, je rentre dans les arts martiaux dans 10-12 ans, 12 ans. Donc, c'était des stages d'été qui faisaient dans ma localité. Et donc, c'était des Parisiens qui venaient pour faire des stages de découverte. Et c'est là où j'ai découvert le judo. Donc, j'ai commencé par le judo. Donc, j'étais ceinture noire de judo. Et ensuite, après le judo, je me suis dit, bon, le judo, c'est bien, mais c'est pas ce qui me fait rêver, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est l'action pied-point, le côté gestuel et la plastique. J'aimais bien la plastique de Bruce Lee. Il était fin, mais rapide, puissant, plein de qualités physiques en même temps. Et là, déjà, j'avais un attrait pour ces qualités physiques intrinsèques qui émanaient de Bruce Lee. Et d'ailleurs, il était très en avance pour son époque. Quand on voit le MMA maintenant, il a créé le Jeet Kune Do. Donc, il y a des similitudes. Et en termes de préparation physique, il était à la pointe, déjà.
Ok. Ok. Et du coup, alors, comment se passe ton adolescence par rapport à ça?
Alors, mon adolescence, j'ai rencontré une... C'est bizarre, mais j'ai vu un article sur un journal local, et sur l'article du journal local, il y avait une fille qui a été championne de France de boxe française, et je ne savais pas qu'elle faisait de la boxe française. Et en fait, ses grands-parents étaient de ma localité, donc de Mont-Salvi. Et elle venait en vacances, et je me suis dit, pourquoi pas lui demander où est-ce qu'elle en fait. Et puis voilà, et c'est devenu une super amie à moi. Et résultat, elle m'a pris dans son club, et c'est à partir de là où tout a commencé pour la boxe française et le kick, etc.
D'accord, ok. Et du coup, c'était quoi, combien d'entraînements par semaine? Comment tu...
Ouh là là. Alors, quand je fais quelque chose, je le fais à 3000%. Tous les gens de mon entourage et toutes les personnes avec qui je travaille, c'est la même chose, ils vont te le dire. Je suis à fond. Donc là, c'était, je m'entraînais tous les jours, deux fois par jour. Matin, ouais, et le soir. Donc, au départ, c'était trois fois par semaine. Et puis après, quand j'ai acquis un bon niveau, c'était deux fois par jour.
Ok. Et du coup, quand est-ce que du coup tu bascules sur le fitness? Comment ça se fait? Tu fais des études en parallèle? Comment ça se passe pour toi?
Alors, j'ai fait des études en parallèle. Je voulais être, en fait, prof de gym. Je voulais partir en STAPS. Tout était tracé. Compétiteur, STAPS, je pouvais faire les deux. Parfait. Je savais où j'allais aller. Il y avait un club qui allait m'accueillir. Tout était parfait dans le meilleur des mondes. Et forcément, des fois, ça se grippe. Les choses se grippent. Et il y a des malheurs qui deviennent des bonheurs.
Et c'est comme ça que je fonctionne. Ma devise, c'est le pas de la jambe droite dépend toujours du pas de la jambe gauche et il faut toujours avancer. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai eu un problème. J'ai vu ma mère qui était dans la chambre et elle était toute paniquée. Et en fait, j'avais fait une crise d'épilepsie. Je n'étais pas épileptique. Et de là, donc, on a fait des examens et on a vu que j'avais une grosse masse dans le cerveau. Et donc, tout le monde a cru que c'était une tumeur, un cancer, etc. Et or, ce n'était pas ça. J'avais justement un angiome cérébral. Donc, c'est une grosse tache de vin qu'il y avait sur le cerveau. Et j'avais un anévrisme qui n'était pas rompu. Donc, on m'a fait. À partir de là, j'ai su que je devais arrêter la boxe. Donc là, j'ai arrêté directement. Et je ne pouvais plus rien faire. Donc, on a fait une radiothérapie. Je suis allé à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, radiothérapie. On m'a mis des vis dans la tête. Et ensuite, voilà, radiothérapie. Et logiquement, dans les 2 ans à venir, ça devait se résorber. Normalement. Donc, je me suis mis à faire autre chose. Je ne pouvais pas faire, parce qu'à l'époque, STAPS, il y avait un concours d'entrée et je ne pouvais plus faire de sport. Je ne pouvais pas forcer quand j'allais aux toilettes. Je ne pouvais rien faire du tout. J'avais une épée de Damoclès sur la tête en disant, mais voilà, pendant 2 ans, il va falloir rester tranquille. Donc, quand tu fais…
T'es dans quel état pendant ces 2 ans-là? Comment tu remets tout en question, du coup, par rapport à
un projet? Complètement, mais… Il faut réagir. On dit, pendant 2 ans, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai fait un BTS Action Commerciale. Et chose que je n'ai pas aimé du tout, parce que ce n'était pas dans mes valeurs. Enfin, la façon de l'enseigner, en tout cas, à cette époque-là, ce n'était pas dans mes valeurs. Il fallait vendre à tout prix, tel un requin, et ce n'est pas moi. Bon. Donc, je me suis mis à un autre sport où j'ai excellé. C'est le billard. J'ai joué au billard, au pool, où j'étais du coup bon, parce que mes parents maintiennent un bar, et il y avait du baby-foot et le billard. Donc moi, j'y suis tombé dedans dès le plus jeune âge. Donc j'avais toujours cet équilibre entre la boxe et le billard. Et après, je me suis plongé vraiment dans le billard. Et après, j'ai fait un art martial interne qui s'appelle le Tai Chi Chuan et du Qi Gong en même temps.
Ok.
Donc, travailler sur l'énergie. Et justement, mon prof de Tai Chi Chi Kong, moi, je voulais avancer très, très vite parce qu'il fallait que j'aie toujours plus. Et il m'a dit, Christophe, tu vas trop vite. L'énergie, ça ne se travaille pas comme ça à ton âge. Tu es plein et il faut que tu dégages cette énergie-là. Sauf que je ne pouvais pas la dégager. Et cette énergie, elle a dégagé. Et j'ai fait la rupture. Rupture d'anévrisme. Donc, paralysé. Je suis parti à l'hôpital en hélicoptère. Donc, ça a été très compliqué.
Dans l'action. Combien de temps après avoir.
À peu près 2 ans.
Okay.
C'était un an et demi. Un an et demi. Radiothérapie, 1 an et demi après, rupture d'anévrisme. Rupture d'anévrisme. Donc, j'étais conscient. J'étais justement. Il y avait une animation pour le BTS. J'étais dans le BTS. Et puis, à un moment donné, je sens une vague de froid dans mon cou. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. J'en ai parlé à un de mes amis qui était avec moi. Et j'ai dit, là, il faut que j'aille à l'hôpital. Donc, j'étais voir mon prof. Et mon prof m'a dit, Monsieur Fontanelle, arrêtez de faire votre cinéma. Donc, je me rappelle bien de ce prof. Je ne le nommerai pas. Et ensuite, je me suis dit, là, il faut que j'y aille. Donc, c'est mon pote qui m'a amené à l'hôpital. Donc, il a pris des risques. Je savais qu'il y avait un gros, gros problème. Et après, je suis parti en hélico. J'étais toujours conscient. Et là, c'est le professeur Vidal de l'hôpital de Limoges qui m'a pris en charge, CHU Dupuytren. Il m'a dit, Christophe, je te le dis, il y a 2 possibilités. Soit tu perds la vue, soit tu meurs. Et la troisième, tu vis. J'ai dit ok, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit il va falloir que je t'opère, je vais te trépaner. Donc pour ceux qui écoutent, je vais aller dans les détails, il y en a certains qui vont tomber dans les pommes peut-être. On m'a trépané, on m'a donc couvert la boîte crânienne, on m'a enlevé l'angiome, on m'a clippé l'anévrisme qui coulait, et ensuite soit ça passait, soit ça cassait. C'est passé. Donc, j'avais perdu un peu l'usage des jambes, etc. Et j'avais perdu énormément de poids. Et ce qui
l'opération,
s'est produit...
L'opération, ça a duré combien? Et puis la convalescence, enfin, c'est...
L'opération, 12 heures, je crois. Parce que c'était la microchirurgie. Aujourd'hui, ça ne se fait plus du tout comme ça. C'est par embolisation, on passe par l'artère, on va directement dans le cerveau, on fait clip-clip, ça dure pas très longtemps et on ressort direct. C'est juste fabuleux. Donc, en 20 ans, il s'est passé plein d'avancées justement au niveau de la médecine qui est vraiment, vraiment fabuleuse. En termes de prise en charge de l'activité physique, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc l'idée, ensuite, c'est que bon, j'étais alité et à un moment donné, il a fallu que je me lève. Donc, quand on est alité, comme tu le sais, on perd toute sa masse musculaire. Donc, on est en sarcopénie totale. C'est une catastrophe. Donc, je ne pouvais pas bouger, mais moi, je voulais bouger. Et il n'y avait pas de kiné. Il y avait un kiné pour tout l'hôpital. Donc, c'était une catastrophe déjà il y a 20 ans. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de... Ça existait déjà avant, réellement. Donc, pas d'appât. Il y avait un kiné. Et le kiné s'est dit, ben voilà, lui, il est jeune, il va pouvoir repartir rapidement. Et en fait, c'est un infirmier qui m'a dit de me lever et de marcher. Donc, j'ai commencé par de la marche. Et après, ben, il a fallu que j'aille dans une salle de remise en forme après. Donc, j'ai remangé, j'ai repris 5 à 10 kilos. Mais j'avais perdu 15 kilos quand même. Donc, c'était compliqué. Ouais. J'étais limite anorexique. Hein. Enfin, je pesais 45, je crois, un truc comme ça.
Oui. Mmh.
Je mesure 1m78.
Mmh.
Ouais.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Donc j'avais perdu 10-12 kilos. Ouais.
Et cette force mentale, tu l'as d'où en fait? Pour t'accrocher, pour à chaque fois rebondir?
C'est une bonne question. J'ai toujours eu ça, en fait. Mais quand on est dans l'adversité, c'est là où on sait qui on est, en fait. Et bon, je te cache pas que sur le lit d'hôpital, c'était compliqué dans le sens où je voyais mes parents qui étaient pas bien. Donc moi, bah, je n'avais pas besoin de ça, en fait. Moi, je voulais des gens qui se battent comme moi, j'allais me battre. Donc, et puis voilà, c'était un combat. Et la boxe, le côté justement Bruce Lee, etc., je pense que ça m'y a aidé et pour aller un peu plus loin. Donc, j'ai toujours eu quelques pathologies asthmatiques, etc. J'ai toujours été encadré comme ça, mais j'ai jamais eu de soucis avec ça. Donc, bah, toujours avancer. Ça, c'est un peu en moi quand même. C'est un peu en moi.
Mmh. Ok. Et du coup, la convalescence, tu te remets, voilà, tu remanges, tu recommences à bouger. Comment ça se passe?
Alors,
comment tu reprends une vie normale, si je puis dire, même si.
Alors, ça doit être... pour tout te dire, à partir du moment où le médecin m'a dit, bah, écoute, moi, je te propose un truc, je fais l'opération, c'est 50-50. C'est 50% le geste chirurgical et 50% ton mental. Donc, c'est ton mental qui va te faire guérir. Et moi, je dis, mais pas de problème. Il m'a tapé dans la main et c'était parti pour ça. Et effectivement, je pense que c'est ce qui a fait que ça a basculé. Donc, moi, j'étais hyper motivé sur l'action. Mais c'est le après qui est le plus dur, en fait. Quand tu es dans l'action, quand tu es malade dans l'action, pour moi, ce n'était pas si dur que ça. Mais le après, ah là là, c'était un sommet, quoi. C'était un truc de fou. Là, j'étais en train de... Voilà, c'était le Mont Everest, quoi. Donc, j'essayais de prendre du poids, j'y arrivais pas. Alors déjà que j'étais de nature sec, ben là, c'était très compliqué. Donc, c'était un cercle vicieux.
Par rapport à quoi? C'est quoi? C'est au niveau de l'alimentation, au niveau de ton système?
Mais en fait, t'as pas forcément envie de manger, en fait, parce que t'es pas bien dans ta tête, tu sais pas ce que tu vas devenir, toi, ton envie, c'était d'être sportif, etc. Donc, c'est compliqué. Ouais. Donc après, je me suis raccroché à une chose qui est très primaire, hein, c'est la bouffe. Et chez nous, dans le Cantal, on a de la très bonne bouffe. Chou farci, truffade, soupe, c'était une soupe au fromage. Et en fait, pendant 15 jours, j'ai mangé ça tous les jours. Okay. Et à partir de là, ben, je me suis rempli des choses bonnes au goût. qui ont fait et rassurantes parce que c'était des choses de l'enfance qui m'ont permis justement de me réhabiliter au niveau énergétique et au niveau du goût. Et après, ça m'a permis aussi de réfléchir sur mon avenir et des besoins éventuels que moi j'avais, ce que je voulais transmettre, parce que je suis quelqu'un qui est dans la transmission, parce que je voulais déjà être prof. Donc, mais en fait, heureusement qu'il m'est arrivé ça, parce que ça ne m'aurait pas convenu. Et puis ensuite, je me suis dit, bon voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est à partir de là où je me suis dit, c'est en fait de l'activité physique adaptée qu'il faut que je mette en place. Or, à l'époque, je ne parlais pas comme ça. Je me disais, il faut que je fasse du sport pour les personnes, pour les patients, pour les personnes qui, comme moi, ont eu des pathologies jeunes. Donc, j'ai monté un projet. Dans un premier temps, je me suis dit, je vais me former. Donc, je ne pouvais pas aller en STAPS. Donc, j'ai fait l'autre cursus. J'ai passé un BE. J'ai fait mon tronc commun. BESAPT, dans un premier temps, brevet d'État sport pour tous.
Pour tous, à l'époque.
Donc, une fois que j'ai eu ce diplôme-là, j'ai passé le BEMF, tout de suite après en suivant, parce que c'est à partir de là où il faut prendre de la masse musculaire. Et pour la petite histoire, mon frère s'était fait mal au genou. Il est allé dans une salle de sport à l'époque et j'ai eu un flash. J'avais 12 ans. J'ai eu un flash. J'ai dit, cette salle sera la mienne. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, cette salle sera la mienne. Quelques années plus tard, aujourd'hui, Choréo Concept est dans cette salle-là.
Ok, excellent.
Donc, en fait, il y a toujours un lien. Si on veut quelque chose, si on le ressent au plus profond, on y arrive. Mais c'est sûr. Parce qu'on va mettre des choses en action qui vont permettre d'arriver à ça. Alors, je ne l'avais pas dans la tête, en fait. C'est arrivé comme ça. Mais je sais que voilà, on est fait d'énergie et on attire des choses à nous.
Et du coup, suite à ton BEMF, comment ça se passe? Tu trouves une structure après? Comment tu t'y es pris?
Alors, justement, j'espère qu'il y a plein de coachs qui vont bien écouter tout ça parce que j'ai tout financé moi-même. Donc, BESAPT, j'ai fait des petits boulots pour me le financer. Le BEMF, exactement pareil. Donc, j'ai obtenu, j'ai fait un travail juste après le BESAPT pour faire le BEMF et j'ai travaillé en plus à côté et je l'ai passé en candidat libre, le BEMF. Chose qui était très compliquée à l'époque parce que là, il sanctionnait quand on était candidat libre. Donc, je l'ai passé sur Montpellier et ça s'est très bien passé parce que j'ai eu une très, très bonne note. Et après, j'ai adoré le côté freestyle. Donc, moi, je suis un freestyler. Step, LIA, j'ai fait des compétitions FISAF notamment. Et j'ai adoré ça. J'ai pris vraiment un pied total là-dessus. Et,
Tu pouvais reprendre les activités un temps, le cardio et tout. Enfin, il n'y a pas eu de.
Ouais. Alors, je le gérais, en fait. Je le gérais au niveau de la fréquence cardiaque. Je faisais les choses bien. Après, je partais pas dans tous les sens. Il fallait que je fasse attention au niveau de la tension, au niveau artériel. Mais après, une fois que c'était clippé, il y avait juste… je pouvais plus faire de boxe. Prendre deux pains dans la tête, c'était limite. Le ski n'était pas trop conseillé, à part le ski de fond. Voilà, c'est par rapport au choc et l'apnée au niveau de la plongée. Mis à part ça, au niveau cardio, je pouvais, la muscu, je pouvais. Donc, je me suis orienté réellement dans ce milieu-là qui me convenait parce que y avait le côté esthétique, la possibilité d'encadrer des gens et d'amener quelque chose au niveau de la santé. Donc, moi, le projet que je voulais déposer, c'était je l'ai déposé auprès des hôpitaux pour faire de l'activité physique adaptée auprès des patients qui, comme moi, en avaient besoin. Et on m'a dit, Christophe, c'est top ce que vous voulez proposer, mais on n'a pas les fonds, en fait. On n'a pas les fonds pour le faire. Donc, j'étais très en avance à l'époque pour mettre ça en place. Et aujourd'hui, ça s'appelle APA. Voilà, il y a des éducateurs APA qui font ça.
Et du coup, le processus, ça a été quoi là, pour arriver à ces choses-là aujourd'hui, sport santé, coach APA et tout?
Alors, déjà,
la pathologie qui a amené bon, plein de questions. Moi, je me suis réhabilité par moi-même. Ensuite, donc, j'ai été dans une mairie. On m'a recruté dans une mairie où j'ai encadré donc, des maisons de retraite, Alzheimer, Parkinson, etc. J'ai encadré des petits, j'ai encadré des personnes âgées, donc tout un tas de des adultes traditionnels où je faisais du à la fois du fitness et à la fois de la mobilité, etc. Donc j'étais vraiment couteau suisse dans la dans cette mairie. Et après, on m'a recruté. Je faisais aussi une intervention dans une salle de sport. Et le gars qui tenait la salle de sport m'a dit, bah, écoute, moi, je voudrais bien avoir un associé freestyle. Moi, je suis muscu. Donc, lui, il était à Cumèze à l'époque. Donc, le BP Force d'aujourd'hui, bon niveau. Et il me dit, mais moi, je veux que tu développes côté fitness. Moi, je développe le côté muscu. J'ai dit, allez, hop, c'est parti. Et c'est là où j'ai commencé à être le… Voilà, je me suis mis en tant qu'entrepreneur dans cette salle-là. Donc, j'ai développé le fitness, je me suis éclaté, vraiment, c'était top, mais il manquait un truc, c'était la prise en charge personnalisée, il me manquait le côté monitoring, donc moi, je voulais aller beaucoup plus loin que ça, et dans la salle, on ne faisait pas d'encadrement. Donc, j'ai dit à mon associé, écoute, ça serait bien quand même qu'on fasse du coaching, ça serait bien qu'on fasse des bilans réguliers aux gens, ça serait bien qu'on fasse un suivi, une programmation. Et il m'a dit, ouais, mais Chris, c'est bien beau, mais ça prend trop de temps et c'est pas possible, quoi. Et là, il y avait un problème, c'était pas aligné avec mes valeurs. Parce que je me suis dit, on ne peut pas accueillir des gens qui ont un besoin spécifique et les laisser consommer de… C'est pas possible, parce que là, c'est que la consommation. Et déjà, là, il y avait un problème. Et ce problème-là, on est d'accord, je pense, hein, il est partout. C'est qu'on arrive, on prend un prospect, le prospect, il a un besoin. Il demande, voilà, je voudrais ton planning et les tarifs. OK, vous avez des disponibilités quand ? Ben venez, telle date, vous allez consommer. Or, ce n'est pas comme ça que moi, je vois les choses et je ne voyais pas les choses comme ça. Et après, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Je vais me former en parallèle, je vais rester dans la salle, je vais faire ce que j'aime et je vais faire des formations. Et j'ai fait des formations chaque année. Chaque année, chaque année. Donc, du coup, un diplôme en préparation physique et de réathlétisation. Après, j'ai passé un DU cancer et qualité de vie, un diplôme thérapeutique du patient. Et là, je me suis orienté vraiment dans le côté santé. J'avais besoin de faire le côté prévention primaire, le côté esthétique, le côté encadrement. Et après, hop, je suis en entonnoir. Je suis vraiment allé dans le spécifique. Et après, j'ai eu l'opportunité de reprendre la salle avec ma femme Chloé, qui elle aussi a eu une pathologie, donc danseuse de haut niveau, pathologie du nerf thoracique long bloqué et donc arrêt de la danse, elle aussi. Et c'est à partir de là où on s'est rencontrés. Je lui ai fait la préparation physique. Depuis, on s'est mariés, on a deux enfants et on est très heureux.
Okay, excellent. Et la reprise du club, ça s'est fait comment du coup ?
Opportunité, le gérant du club, nous a dit, bah, écoutez, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous interveniez dans le club. Donc, on était intervenant. Et l'année d'après, il a dit, bah, si vous voulez reprendre, vous reprenez le club. Donc, on a racheté. Et puis, on a tout refait à l'intérieur. Tout. Il y avait beaucoup de rugbyman. Je n'ai rien contre les rugbyman. Mais ce n'était pas la cible. Donc, on a vraiment tout réagencé. C'était une salle de squash. Donc, on a gardé le squash au départ. Et petit à petit, durant ces 10 années, on a vraiment centralisé le concept vers le sport santé. Au départ, c'était un corner et ensuite, on a fait un 100% sport santé. Et quand on va en parler, hein, mais le sport santé, c'est vraiment un mot, un concept qui est très large et on peut mettre plein de choses à l'intérieur et ça va de la prévention primaire, secondaire, tertiaire en fonction des limitations et en fonction des diplômes que l'on a, évidemment.
Alors justement, je voudrais qu'on en parle parce que moi, j'entends maintenant parler partout et je pense que on s'y perd un petit peu. Je vois des trucs sport santé dans des trucs, je me dis bon. Alors voilà, moi comme je suis, je regarde un petit peu de loin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a dans le mot sport santé?
Ben déjà, dans le mot sport santé, la définition de l'OMS, c'est le côté, on est bien d'accord, hein, le bien-être physique, mental, psychologique, social. Donc, c'est ces préceptes-là. On peut aller jusqu'à l'alimentaire, la gestion des temps forts, temps faibles au niveau du sommeil. Il y a plein de piliers différents dans le sport santé. Mais pour moi, le principal atout et l'intérêt du sport santé, c'est la prise en charge personnalisée. Il faut qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait un bilan. Le bilan, il faut déjà bien le faire en amont. C'est-à-dire que pourquoi ne pas faire un bilan à un prospect ? Ça paraît bête, hein, mais un prospect qui arrive, lui faire directement un bilan motivationnel avec de l'impédance métrie, si on a un impédance mètre, avec des tests physiques qui va permettre de voir physiologiquement où en est la personne, ce qu'elle veut, ses attentes. Et en fonction de ça, on met en corrélation les deux. Et là, on va pouvoir proposer une solution adaptée à cette personne. Mmh. Et là, on est cohérent. Et à partir de là, on peut faire une programmation d'entraînement ou du coaching. Si j'ai une ALD, si j'ai une pathologie, ben là, je vais faire du coaching. Si je n'en ai pas, c'est de la prévention. Plutôt prévenir que guérir. Ensuite, mmh. si je ne sais pas faire d'activité physique, si je ne connais pas, qu'est-ce que je dois faire à l'échauffement ? Je dois éduquer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'animateurs, nous n'avons pas d'éducateurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'éduquer la personne vers une autonomie pour qu'elle ne soit pas sédentaire. Lui expliquer que la sédentarité, c'est vraiment le mal du siècle et qu'à partir du moment où on reste assis sur une chaise pendant 8 heures, ben, le risque de mortalité est énorme. Mmh.
Moi aussi, j'ai un BEMF. Et quand on a un brevet d'état des métiers de la forme, notre étiquette, c'était d'éducateur sportif. Alors là, j'entends effectivement les bilans et tout. Moi, c'est ce que j'ai appris à l'époque. Hein. Il y a 20 ans en arrière, les bilans dans les structures, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. Alors, le coaching individualisé, il commençait juste à arriver, mais du coup, c'était pas encore les débuts ont été, je me souviens, on avait un bilan mais qui était offert dans l'abonnement, et après il y avait le rôle de l'éducateur, c'était d'être en cardio et musculation et de donner des conseils, d'être avec les gens. Et j'ai l'impression effectivement qu'on revient un petit peu en arrière, et des choses qui pour certains ça paraît c'est génial. Je me dis que 20 ans en arrière, on n'était pas si mauvais que ça, du coup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça?
Ben justement, et le sport santé, en gros, on met l'église au centre du village. C'est la base. C'est dingue. C'est notre métier, en fait.
C'est notre métier.
Sauf que ce métier-là, on l'a perdu. On a perdu complètement avec... J'arrive pas à comprendre, en fait, ce qui s'est produit. Je pense sincèrement que c'était une histoire d'argent. On va essayer d'amener le plus de personnes dans les salles. S'ils ne consomment pas, mais c'est pas grave. Comme ça, ils vont pas utiliser les douches, donc c'est nickel. Ils n'utilisent pas les machines, donc les dormants, c'est génial. Sauf qu'un dormant, à un moment donné, il se réveille. Et s'il se réveille, il résilie. Donc, c'est pour ça que le taux de résiliation est quand même super important dans les salles de fitness, que le taux de pénétration est très faible en France. Pourquoi ? Ben parce que, sincèrement, on ne fait pas les bonnes choses, quoi. On ne s'occupe pas des gens. Et à la base de notre métier, je suis bien d'accord avec toi, à l'époque, le vieux con qui parle, mais à l'époque, c'était vraiment ça. C'était la base. C'est on s'occupe de la personne, de l'humain. Aujourd'hui, on ne s'en occupe pas réellement. Dans les cours collectifs, j'ai rien contre les cours pré-chorégraphiés, mais malgré tout, si tout le monde fait la même chose, on ne peut pas vraiment spécifier ou mettre des options particulières. Alors, je sais que maintenant, certains concepts pré-chorégraphiés font les choses correctement pour essayer d'individualiser la pratique, même en collectif. Mais quand on a un cours à 80-90 personnes, ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà, il faut mettre des small groups, il faut arriver à faire du personal training. Aujourd'hui, un personal trainer, ce qui me semble dingue, c'est qu'on ne peut pas l'embaucher. Je défie quiconque d'embaucher un personal trainer en CDI. Le personal trainer, maintenant, ben, il a son entreprise et il va rester dans son entreprise. On ne peut pas embaucher, c'est très rare d'embaucher un personal trainer en CDI. Alors, il y a des concepts qui fonctionnent
Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis que tu ne pourrais pas prendre un coach, enfin, tu ne pourrais pas employer quelqu'un ?
Parce que les coachs ne le veulent pas. J'ai discuté ce matin avec un gérant de salle qui m'a dit ben, moi aujourd'hui, j'ai proposé en fin de formation BPGEPS AG2F un contrat à durée indéterminée, bien payé. Ben, la personne a préféré être en auto-entreprise parce qu'elle avait gagné plus. Alors, ça se discute. Mais moi, j'ai du mal à comprendre ça. Or, il y a notre cursus. Ça, c'est des. Après, on pourra en discuter au niveau des formations, mais l'autre cursus, APA, ben, ce n'est pas la même chose. Les APA, tu peux les embaucher sans problème. Tu les embauches, ben, ils vont faire le taf. Ils vont faire du coaching. Et alors, un truc, on va en discuter peut-être aussi, mais comment se fait-il qu'un coach qui va être primé sur ses coachings. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre en fait. T'es coach, t'es embauché, on va te primer sur les coachings que tu fais. Je trouve ça incroyable. On m'a posé les questions, est-ce que tes coachs sont primés ? Primés pour quoi faire ? Pour faire son boulot. Le coach, il va, alors je vais enlever le mot coach, mais éducateur, il va éduquer, il va faire les cours, il va faire du coaching, il va faire du personal training. C'est le propre de l'éducateur. Et aujourd'hui, on va primer. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je trouve que c'est comme si on disait à un carreleur, à chaque fois que tu vas mettre ton carrelage, à chaque carrelage que tu vas mettre, tu vas être primé par le fait de mettre du carrelage. Ben, je ne comprends pas trop.
J'ai du mal à comprendre. Dans ce truc, c'est peut-être de remercier l'équipe, mais sur un chiffre d'affaires global au sein de l'entreprise. C'est peut-être plus ça, non ? Par rapport aux primes. Non, c'est pas ça que.
Apparemment, moi j'ai eu plusieurs, parce que vu que j'accompagne plusieurs salles pour positionner ces salles en sport santé, il y en a plusieurs qui m'ont dit oui, mais nous, les personal trainers, si on les embauche, ils veulent être primés. Alors, si c'est primé à l'abonnement parce qu'ils sont des commerciaux, là je peux comprendre parce que c'est un autre travail, mais sinon au coaching effectué, ça je ne comprends pas. Et c'était ça, hein. C'est coaching effectué. Je fais un coaching, je suis payé pour faire 35 heures à X euros, mais si je fais du coaching, vu que c'est quelque chose de supérieur en termes de travail, je suis payé plus.
Oui, alors après, c'est une nouvelle fois, après c'est une question de salaire. Hein. Je pense que c'est la négociation avec… moi, je discute avec des patrons de clubs et je discute aussi avec beaucoup de personnel trainer. Et forcément, et c'est comme tu le dis, la réalité aujourd'hui économique et la façon de consommer le travail a énormément changé, encore plus avec la période qu'on a eue avec la Covid et les confinements. Et du coup, c'est ce que je dis, c'est… Il faut trouver un juste milieu. Enfin, il faut que à la fois le patron de club il trouve son compte et que le coach, le personal trainer ou l'éducateur, il trouve son compte aussi. Donc c'est vrai que c'est un juste milieu. Et aujourd'hui c'est une des problématiques. Hein, on le voit, il y a beaucoup de clubs qui ont des difficultés à recruter, à trouver des bonnes personnes. Mais à contrario, il y a beaucoup de personal trainers, et je dirais la plupart, ils sont indépendants, auto-entrepreneurs, mais ils galèrent, quoi. Voilà. Donc, tu vois, de fil en aiguille, c'est toujours
un peu… Je pense aussi, là où c'est clair qu'ils ont peut-être aussi raison, c'est que les gérants n'ont pas payé assez. À un moment donné, il faut valoriser le travail. Parce que quand on s'occupe de l'humain, ça demande du travail, automatiquement. La préparation de séance, c'est la préparation de séance. Donc, ça en fait partie. Ça fait partie du temps de travail. La préparation de séance fait partie du temps de travail.
Donc, la préparation de séance, moi, j'ai fait beaucoup de Les Mills et je connais très bien le produit Les Mills. Il fallait aussi qu'on apprenne nos chorés, tu vois, si tu veux. Donc, c'est pareil, ça fait partie, entre guillemets, intégrante du job et ça, tu le sais, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que je pense que Je pense qu'il y a un manque de dialogue de toute façon entre tous les acteurs, entre bah, le patron, le manager du club, entre le personnel et tout ça, ce qui fait que en fait bah, tout le monde essaie de tirer à son avantage le truc, alors que je pense que la meilleure solution c'est la communication et de si une des deux personnes se sent lésée, tu vois, si on a mal expliqué le truc et on se dit ah ouais non mais il est en train de m'enfler ou souvent on se dit ouais, le personal training c'est facturé X euros. À la fin, quand on enlève la TVA, s'il y a la TVA, quand on enlève les charges, quand on enlève tout ceci là, à la fin, voilà ce qui reste. Et là, si tu l'expliques au coach, bon bah le coach il est pas con quoi, tu vois, il va dire ah oui mais moi je pensais que sur X euros le club en touchait. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi un flou où il y a un manque de communication. C'est assez opaque, hein, tu sais. Et du coup, bah, comme on veut pas trop expliquer ou autre, on se dit ouais, là il est en train vraiment de me baiser, quoi.
ouais. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut, vraiment de la clarté. Il faut une réunion d'équipe. Il faut faire, il faut faire des choses. Il faut mettre une direction et le pourquoi. Pourquoi on fait du coaching? À quoi ça sert? Si on a des personal trainers au sein de sa salle et que on est bien comme ça, ça je comprends. Par contre, si on met du sport santé dedans, là il faut embaucher, c'est pas possible autrement, il faut embaucher des personnes qualifiées, donc APA ou des formations complémentaires au PPGEPS, éducateur sport santé, CSAMAP, ou il y en a plein, mais voilà, il faut des certifications complémentaires.
Ok, bah, du coup je voudrais, parce que moi je suis un peu à, je voudrais rentrer justement dans ce côté-là. S'il y a un patron de club qui nous écoute ou des coachs qui veulent rentrer dans le côté justement sport santé, quel type de formation? Donc tu as dit formation APA, c'est oui. Quoi comme type de formation? Où est-ce qu'on peut faire ce type de formation là?
Alors dans un premier temps, l'APA c'est des licences APA, donc c'est STAPS. Okay. Licenciés APA, et c'est aujourd'hui les licenciés APA, ce sont des professionnels de santé aujourd'hui.
Ok.
Donc qui dit professionnel de santé, donc il y a une, je vais en parler rapidement, mais il y a une nouvelle loi qui vient de sortir, qui est pas vieille, hein, c'est du 30 mars, avec les prescriptions d'activité physique. Donc il faut savoir que cette nouvelle loi reprend en fait au niveau de la prescription d'activité physique, c'était à la base prescription sur ALD, enfin que pour les ALD, les maladies chroniques, et aujourd'hui ça ouvre avec les facteurs de risque. Donc les facteurs de risque tels que l'obésité, bon ça s'en faisait partie, mais le surpoids. Aujourd'hui le surpoids peut être prescrit par le médecin. La prescription est ouverte aussi pour les kinés. Les kinés peuvent prescrire. Donc, l'activité physique adaptée est aussi à prescrire pour les personnes âgées. Donc, perte d'autonomie. Donc, ça change énormément de choses. On passe de 10 millions de personnes en prescription d'activité physique à 20 millions de personnes.
Bah, en sachant qu'il y a une personne sur deux qui est en surpoids. Donc, déjà, il y a 50%. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin, il va mettre quoi? Il va dire, vous devez faire… Je vous encourage à faire des…
Oui, prescription d'activité physique. Donc, dans un premier temps, alors comment ça se passe? Il y a le tu m'entends toujours ou pas?
Oui. Ouais.
Le maillage se fait de cette façon-là. Il y a la stratégie nationale sport santé 2019-2024. De cette stratégie, les deux ministères se sont joints pour justement faire des maisons sport santé. Ils ont dit on va délocaliser, on va mettre des maisons sport santé un peu partout. Il y a des plateformes régionales qui régissent tout ça. Et il y a plus de 500 maisons sport santé, je crois qu'il y a 550, je crois, maisons sport santé qui ont été mises en place. Nous, d'ailleurs, nous sommes maisons sport santé aujourd'hui. Donc, structure privée, maisons sport santé, c'est un peu rare, mais il y en a maintenant. Et l'idée, c'est de diffuser l'information auprès des personnes qui sont atteintes de pathologies, des ALD, maladies chroniques, ça c'était avant, mais maintenant il y a le surpoids, etc. etc. Et le but c'est de diffuser, d'encadrer et de dire à ces personnes-là, vous pouvez faire de l'activité physique dans cette association-là, dans ce club de sport-là, mais pour ce faire, il faut que les personnes soient diplômées avec un diplôme qui permet d'encadrer ces personnes-là. Soit licence APA, soit donc éducateur sport santé, soit des CSAMAP, etc. Donc il y a plusieurs diplômes qui permettent d'encadrer ces personnes-là, mais c'est les maisons sport santé qui vont indiquer où aller. Donc il faut se rapprocher des maisons sport santé pour pouvoir avoir justement cette prescription d'activité physique qui n'est pas remboursée par la Sécu, je tiens à le dire, mais par certaines mutuelles.
Ah oui, d'accord, ok, c'est pas, oui, ouais. C'est pas la Sécu, mais sur, okay, avec certaines mutuelles. Et donc moi, avec un BEMF, je peux avoir, enfin, je peux passer un, je sais pas, un complément de formation ou.
Oui,
ou je, ouais, c'est ça?
Oui. Alors, tu as des compléments de formation, comme enfin, nous, on le propose dans notre centre de formation, hein, éducateur sport santé. Comme je dis, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mais l'idée, c'est d'avoir une formation complémentaire. Au minima, nous, elle fait 69 heures avec un côté théorique par pathologie et ensuite le côté pratique. Donc, il faut quand même mettre la main au camp de vraiment dans le moteur pour voir comment ça se passe. Donc, prendre en charge des personnes à pathologie. Nous, on accueille des personnes avec des pathologies et directement, on met les futurs éducateurs avec ces personnes-là pour pouvoir faire de l'andragogie pure et dure.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je participais à ta formation, il faut que ça se passerait comment, typiquement, moi, si je venais à faire ta formation?
Alors, en fait, tu as un e-learning. On a une plateforme e-learning qui. Alors, il y a 7 modules. À chaque module, il y a une visio, comme on fait aujourd'hui, avec les questions inhérentes justement au module passé. On fait les 7 modules et à la fin, il y a le présentiel de 3 jours. Premier okay. jour, c'est les caractéristiques des publics. Je présente tous les publics qui vont devoir accueillir le lendemain, le jeudi et vendredi. Donc vraiment, ils sont des coachs coréo. Donc je les inclus réellement dans la famille Coréo, je leur explique comment ça se passe. Et puis ensuite, ils ont le carnet de suivi. Donc nous, on a un carnet de suivi avec les pathologies, avec tout le listing des personnes. Et ensuite, ils vont devoir encadrer ces personnes-là.
OK.
Donc coaching et small group.
OK, OK, OK. Et je ne peux pas choisir, moi, une spécialisation. Je dois faire au niveau de la formation, je dois m'intéresser à tous les publics, c'est ça?
Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que les licences APA, parce qu'on en a accueilli dans la formation, pourtant ils ont les compétences logiquement, mais souvent, ils connaissent chaque pathologie. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, nous, dans notre structure, on n'a pas une personne avec une pathologie. On a plusieurs pathologies dans la même personne. On a même une personne qui en a 9. 9 pathologies. La moyenne, c'est 4 pathologies par personne. Donc, c'est des pluripathologiques. Et quand on a ça, alors souvent,
c'est
j'ai...
C'est quoi surpoids, diabète, maladie, infarctus, des choses comme ça, c'est ça? Tu parles des pathologies?
Oui, c'est diabète, cancer, BPCO, ça peut être... SLA, enfin, il y a toutes les pathologies peuvent okay. être intégrées dedans. On a un tétraplégique. Donc voilà, il y a plein de possibilités, des accidentés de la route aussi, post-opération. Donc il y a de tout. Et nous, on a 95% des personnes qui viennent chez nous qui ont des pathologies. Et aujourd'hui, les personnes qui ne viennent pas en salle, ce sont des personnes qui ont des pathologies aussi et il faut vraiment les toucher parce que il y a un besoin énorme. Et les gens qui ne viennent pas en salle, c'est ça. Ils ont peur des salles de sport parce qu'on véhicule une mauvaise image et les prescripteurs ont peur d'envoyer dans ces salles-là. C'est pour ça que si on identifiait salles sport santé, les éducateurs sont diplômés, référencés dans les plateformes, dans les maisons sport santé, là il y a un cercle vertueux qui se met en place. Et là, ça va venir, quoi. Et aujourd'hui, okay. L'orientation, elle est dans le sport santé. Si on ne va pas dans le sport santé, on se fourvoie, en fait. Et surtout, on ne va pas... moi, ma mission de vie, c'est celle-là. Ma mission de vie, c'est de développer le sport santé en France et même partout ailleurs, en formant les éducateurs à prôner la bonne parole et à éduquer. C'est-à-dire que ça va jusqu'à comment on dort. Donner des petits tips qui vont permettre justement de mieux vivre sa vie. Ça passe par le mindset. Voilà, c'est du développement personnel aussi. On passe partout en fait. C'est vraiment un travail holistique.
Mmh. Ok. Et toi, comment tu fais au sein de ton club du coup? C'est quoi la prise en charge? Je suppose que le fameux bilan du coup. Et puis après, c'est quoi? C'est une prise en charge où chaque personne a un coach qui lui a titré?
Alors en fait, nous, c'est un petit peu à part. Donc déjà, prospection, c'est bilan. C'est, on n'a pas de prospects qui viennent sans prendre un rendez-vous. La personne vient en walk-in, on dit bonjour, ok. Si jamais cette personne-là a du temps et que nous, on est présent, on va faire le rendez-vous directement. Sinon, c'est une prise de rendez-vous. 100% des personnes reviennent. Et la prise de rendez-vous, ensuite, le rendez-vous dure 45 minutes. Et on fait des tests. Okay. Souplesse, force, membre inférieur, supérieur, l'impédance métrie, motivationnelle. Et chose que l'on fait qui est obligatoire, pour nous, c'est obligatoire. Et on fait un QAAP, un questionnaire de sédentarité, qui va permettre, et le Marshall aussi, qui va permettre de voir où en est la personne. Et s'il y a une réponse, oui ou non, qui va pas, ben on lui demande. Ben, allez s'il vous plaît voir votre médecin pour qu'il vous fasse une prescription d'activité physique. Et à partir de ce moment-là, on est en lien avec le médecin parce que le médecin il se dit.
Ah, je t'entends plus.
Tu m'entends?
Oui, c'est bon.
Attends, je vais être plus fort là parce que mon casque s'est débranché.
Ouais.
le médecin est prescripteur du coup. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il va voir que la salle n'est pas là pour faire que de la rentabilité ou du fric, vraiment. Il dit, bah attends, il n'a pas accueilli cette personne-là parce qu'il a coché oui à un moment donné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, il prend vraiment son métier à cœur et il veut faire les choses correctement. Et là, on a tout gagné. Mmh. Parce que là, ils vont nous envoyer du monde. C'est sûr et certain. Et après, évidemment, il faut bien faire les choses. Il faut faire un rapport d'activité auprès du médecin s'il le souhaite et si le patient client le souhaite, parce que c'est le patient qui est au centre et après on travaille en étoile. Le parcours thérapeutique du patient, c'est ça, hein. C'est patient au milieu, une étoile avec bah, les différents acteurs, diététicien, psychologue, le médecin spécialiste, le médecin généraliste, nous, et là on travaille autour. Et c'est lui, c'est le patient qui va amener les dossiers auprès des différents professionnels.
Et du coup, suite à ce bilan, vous allez lui dire, bah, par rapport à ce qu'on a pu voir ou par rapport à ce que le médecin dit, etc., voilà le plan d'action idéal. Et à partir de là, la personne, elle choisit quel type d'activité
elle va faire. Exact. Alors, elle va même pas choisir. C'est-à-dire que nous, on lui indique la solution idéale pour qu'elle ait des résultats par rapport à sa problématique. Mmh. Nous, ce qu'on lui dit, c'est vous achetez du résultat. Donc, vous avez besoin, par exemple, je vois que la graisse viscérale est à 20. Bon, là, il va falloir descendre cette graisse viscérale parce que c'est très, très important pour vous parce qu'il y a des risques cardiovasculaires. Donc, on lui explique pourquoi et on lui dit, ben bon, ça, c'est un fait. Vous avez eu peut-être dans votre vie besoin de prendre du poids pour vous protéger des choses de l'extérieur parce que vous étiez stressé et ce n'est pas grave. Maintenant, vous avez pris conscience de ça. Donc maintenant, on va travailler main dans la main. Et ce qu'il y a de vachement bien, c'est que dans votre moteur est puissant. Les moteurs, c'est les muscles. Et donc là, on dit, ben voilà, vous avez une qualité musculaire qui est super intéressante. On a juste à mettre l'essence que vous avez mis dans le coffre. On va prendre cette essence-là. Vous avez stocké cette essence, qui est la graisse, et on va le mettre dans le moteur pour qu'on puisse appuyer ensemble sur l'accélérateur progressivement de façon à pouvoir alimenter le moteur. Et la personne dit « Ah, d'accord, j'ai compris. » Et juste en faisant ça, mais on essaie de mettre des images pour que la personne puisse comprendre et monter en compétence sur sa santé et sur son activité physique. Mmh. C'est ça le but, en fait. Il faut qu'elle soit acteur de sa santé, de son activité physique.
Et donc après, c'est quoi ? Tu as un club, tu as des cours, tu as du small group, tu as du coaching individuel, tu as comme un club, on va dire, plus ou moins indépendant, classique au niveau des activités, non ? C'est ça ?
En fait, on avait un club, comme je te l'ai dit, avec du squash, avec on avait plein d'activités. Et en fait, on a réduit vraiment les activités. Et les activités, donc on a évidemment, c'est du coaching. Ensuite, on a du small group, des cours collectifs, un plateau cardio et muscu. Donc ça c'est les outils. Mais par contre, on a un parcours client. C'est-à-dire que la personne qui… Alors, on a trois abonnements. Le premier abonnement, c'est de l'accès libre, mais qui n'est pas si libre que ça. Ensuite, on a l'accès semi-individualisé. Et après, on a le coaching. Dans l'accès libre, les personnes ont quand même un programme d'entraînement. Ils ont un bilan au début et à la fin de leur abonnement. Ils n'ont pas des bilans intermédiaires. Dans le semi-individualisé, ils ont des bilans intermédiaires. Donc, tous les trois mois, parce qu'on sait qu'après 12 semaines, c'est là où il y a des activations au niveau corporel et au niveau des sensations aussi. Et ensuite, ils ont un programme spécifique d'entraînement. Donc, nous, on a des machines, on peut les nommer. On a e-gym, on a des machines qui sont quand même bien, au niveau cardio, au niveau muscu, et tout est connecté. On a de l'impédance-métrie. Ils ont un parcours. Ils commencent toujours par la mobilité. Tout le monde, ils sont au courant. C'est d'abord la mobilité. Pourquoi ? On travaille sur les fascias. Pourquoi on travaille sur les fascias ? Ensuite, pourquoi on va travailler sur la mobilité articulaire ? À quoi ça sert ? Ils le savent. Et en fait, quand on regarde les coachs qui ont fait la formation avec moi, quand ils regardent les gens, ils disent « Mais c'est dingue, ils sont tous éduqués, on dirait qu'ils font une danse, quoi. » Et c'est toujours pareil. Hop, ils font leur parcours, ils vont faire l'automassage, après ils vont faire de l'iflex, ensuite ils vont faire leur parcours de renforcement musculaire qui leur est attribué, et après ils vont faire du cardio éventuellement, ou alors ils vont faire que du cardio de la mobilité. Et il y en a certains qui aiment le lien social. Ceux qui n'aiment pas le lien social, ils vont faire ça, ou du coaching. Et ceux qui aiment le lien social, ils vont faire les cours collectifs. Parce que c'est dans la définition de la santé, côté psychologique et social. Et donc, on va travailler sur tous ces attraits-là. Après, on les appelle très régulièrement, justement. On fait des rendez-vous, des points rapides de 10 minutes pour savoir si tout va bien au niveau des réglages des machines, etc., si on peut aller plus loin, comment ils ressentent les choses. Et donc, ça, c'est vraiment un parcours client optimisé. Il faut vraiment faire un parcours client optimisé en fonction de chaque personne. Donc, on a déterminé par pathologie les recommandations et ce que l'on peut faire par pathologie comme exercice.
Ok. Et quoi, ils auront aussi une application en ligne et tout est sur une application en ligne ou comment vous gérez la planification d'entraînement ?
Alors oui, c'est par application. Il y a plusieurs types d'applications qu'on peut utiliser. Là, en l'occurrence, on va mettre une nouvelle application en place. Donc, je peux la nommer hein, parce qu'on est partenaire avec eux et c'est vraiment, je trouve ça vraiment exceptionnel. C'est Diago. Je trouve ça très bien en termes de bilan et en termes de suivi. C'est intéressant pour justement les personnes, pour les rendre autonomes, mais même à la maison. Donc ça, c'est assez intéressant. Et nous, on est en train de mettre en place justement des programmes APA, d'activité physique adaptée, au sein de l'application.
C'est Diago, tu dis ? Je connais pas.
Oui, Diago.
Ok. Diago. Top.
C'est vraiment bien.
Ok. Ok. Ça me paraît très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions sur ça ? Non ? Je crois que c'est clair. Comment toi tu vois l'avenir du fitness, l'avenir du sport santé, quelle est ta vision par rapport à ça, même si j'ai une petite idée.
Alors, je vais te faire juste une précision par rapport au club. Il faut savoir que dans le club, on a une limitation en termes de personnes. C'est quand même assez important. C'est-à-dire que par abonnement, je limite le nombre de personnes par abonnement pour qu'on puisse suivre les gens. C'est-à-dire dans l'abonnement Platinum, il y a 60 places. Dans l'abonnement Gold, il y a 180 places. et ainsi de suite. Et dans l'autre abonnement, il y a là il y en a plus, je crois, il y a c'est 150 places aussi. Donc il y a un nombre de places. Ça veut dire qu'à la fin,
il y a un numerus clausus quoi de toute façon.
Exactement. Et comme ça, il y a une liste d'attente. Parce qu'on ne peut pas encadrer tout le monde correctement. Et c'est pour ça que le panier moyen est supérieur, parce que l'abonnement de base est à 69,90. J'en ai un à 79,90, et après les coachings. Le panier moyen est à 110€ par mois.
Ouais, du coup, les coachings, si j'ai envie de prendre un coaching individuel, je le prends, c'est en plus et c'est à la carte, c'est ça ou...
ouais, exactement, ça c'est en plus. Et en général, les gens qui viennent, qui ont une pathologie, commencent par le coaching. Ils font du coaching, on les éduque, comprennent comment ça se passe, les sensations, la respiration, la posture. Ils font une planification d'entraînement et après, on les intègre dans le semi-autonome. Et comme ça, on peut prendre d'autres personnes.
Oui, ok. Excellent. Excellent, excellent. Et
donc, l'avenir du fitness.
Oui, et du coup, une fois que toi, tu as le numerus clausus de ton club, tu as une liste d'attente. Ok.
Liste d'attente. Donc là, aujourd'hui, nous sommes Maison Sport Santé. Donc, vu qu'on est une maison sport santé, les gens qui vont arriver, on va les envoyer dans d'autres, soit d'autres salles, s'il y a des diplômes, etc., soit dans des associations. Donc, on a la capacité de pouvoir justement diriger, et c'est notre rôle maintenant de le faire. Donc, on peut faire des bilans. Donc, les bilans seront mis en place et après, on va diffuser.
Ok. Et... il y a beaucoup de structures privées qui font comme tu fais, du sport santé ?
Oui, il y en a de plus en plus. Qui sont maisons sport santé, pas beaucoup, parce que l'habilitation, c'est très compliqué. C'est un appel à projet qu'il y a eu et c'est très, très compliqué pour l'avoir. Après, oui, il y a beaucoup de personnes qui font du sport santé, beaucoup de salles. Et après, il y a sport santé, comme je le dis. Et quand on fait du sport santé, alors après, je sais qu'il y en a qui vont me détester parce que je vais dire ça, mais je suis désolé, on ne peut pas faire du sport santé de 6h à 23h ou du 24-24. Ce n'est pas vrai. Si on fait du sport santé 24-24, je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de sport santé. Ce n'est pas possible. Imaginez quelqu'un qui est hyper tendu ou qui a une maladie cardiovasculaire qui vient à 6h du matin sans encadrement. Il lui arrive quelque chose, il fait n'importe quoi, vous faites quoi ? Enfin, c'est incroyable. Donc non, nous, les horaires, il y a toujours une personne qui est diplômée au sein de la structure. Donc de 8h30 jusqu'à 14h. De 14h à 16h30, c'est fermé. Comme ça, les personnes qui viennent en situation de handicap peuvent venir librement ici. Ensuite, les coachs peuvent s'entraîner à ce moment-là aussi. Et après de 16h30 à 20h, c'est de nouveau ouvert. Mais c'est que comme ça, en fait.
OK.
Mais après, voilà, je peux comprendre au niveau de la rentabilité, les ouvertures larges, mais on peut faire ça à partir du moment où on dit le sport santé, c'est de telle heure à telle heure. De 10h à 14h, vous avez un référent activité physique adaptée à ce moment-là. Mais après, ou avant, ce n'est pas le cas. Mais il faut le dire. Parce que légalement, c'est pas top, quoi.
Ok. Et du coup, toi, ta vision de notre industrie, notre métier ?
J'espère que tout le monde va se réveiller. Je souhaite vraiment que... je trouve que les clubs, aujourd'hui, veulent se différencier. Ils le souhaitent vraiment. Ils font des choses super chouettes. Mais à mon avis, ils ont peur d'augmenter leurs tarifs. Or, les gens sont prêts à payer à partir du moment où le service est là. Les 3 étoiles fonctionnent. Les restaurants 3 étoiles fonctionnent. Michelin. Donc, pourquoi ne pas avoir des étoilés dans le fitness ? Pourquoi ne pas... Alors, je sais que ça va arriver. Hein, normaliser le fitness au niveau des salles. Ça, je trouve que ça serait intéressant de mettre les choses un peu en place comme ça, parce que aujourd'hui un consommateur, il sait pas où aller en fait. Une salle de fitness, une salle de remise en forme, basic, alors je vais les nommer, hein, mais basic fit ou une salle traditionnelle, il y a 10-15 balles d'écart. Or, la salle traditionnelle, elle a beaucoup plus de personnes à l'intérieur que basic fit. Je ne critique absolument pas basic fit parce que c'est justement pour les primo-accédants qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est super bien d'aller chez Basic Fit dans un premier temps. S'il y a des coachs qui peuvent justement faire du personal training avec la location, là, je trouve que c'est pertinent dans un premier temps. Pour les jeunes notamment, c'est pourquoi pas, pour éduquer, etc., c'est top. Après, les indépendants, je pense qu'ils font beaucoup de boulot. C'est très compliqué d'être au milieu. Et après, dans le volet premium, mais quand on est premium, il faut du service plus plus. Je pense qu'ils vont plus s'en sortir quand on est premium que middle market. Mmh. Donc, soit on est en bas, vraiment, alors en bas, ce n'est pas péjoratif, hein, au niveau du prix, soit on monte le prix. Mais là, aujourd'hui, en middle market, je pense qu'il faut faire attention. Il faut vraiment nicher son produit, son service plutôt, et faire les choses avec ses valeurs profondes. Moi, ce que je conseille, c'est ça. C'est d'abord, posez-vous. Quelle est votre vision? Quelle est votre mission et vos valeurs? Et en fonction de ça, vous mettez votre objectif en place par rapport à votre structure. Et vous alignez tout ça en fonction de vous, les gérants de salle et même les personnel trainers. Il faut le faire comme ça. Il y a des personnel trainers qui sont spécialisés dans le sport santé et qui font que ça. Et ils vont gagner de l'argent comme ça. Et ce n'est pas péjoratif que de gagner de l'argent sur la santé des gens, parce que vous aidez ces personnes-là.
Oui, bah, c'est un peu notre... Alors après, oui, sur les pathologies, je pense qu'on n'est pas... sur toutes les pathologies, on n'est pas formé, mais à la base, on fait notre métier pour, oui, pour améliorer la qualité de vie des gens, quoi. Alors après, avec les pathologies, c'est clair qu'il faut... je pense qu'il faut avoir des compétences supplémentaires sur certaines, forcément, sur certaines pathologies, parce que voilà, on a notre cursus, en tout cas le mien, mon cursus généraliste ne permet pas de pouvoir encadrer au mieux certaines formes de pathologies. Ça, c'est une évidence.
Alors déjà, quand on en est conscient, ça veut dire qu'on va mettre des choses en place pour pouvoir le faire. Donc il n'y aura pas de problème, en fait, parce que la personne va se former. Comme je dis, je me suis formé chaque année et il faut faire des formations. Formez-vous. S'il y a un truc à faire, c'est former. Même les gérants, il faut qu'ils se forment.
Mmh. Et est-ce que tu aurais j'aime bien poser la question, une ressource, un livre ou une ressource que tu aimes partager à d'autres coachs ou autres, que ce soit sur le port santé, que ce soit sur n'importe quoi?
Alors moi j'aime bien les livres de développement personnel, forcément. Là aujourd'hui je lis un livre qui s'appelle la Bible des préférences motrices de Bertrand Terolaz et de Ralph Hippolyte. Donc Bertrand, si jamais tu écoutes, je te salue. C'était vraiment top. C'est un livre, c'est un gros pavé. C'est 800 pages, mais je l'ai dévoré. C'est vraiment très, très intéressant. Et pour un personal trainer ou même pour un gérant de salle, on parle de motivation profonde, on parle de préférence motrice, de marche par le haut, marche par le bas. C'est super intéressant. Donc, la Bible des préférences motrices, et évidemment, la Bible de la préparation physique. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil à Pascal Prévost, que tu connais aussi. Donc, voilà, que je recommande aussi.
OK. Et où est-ce que vous voulez aller, vous, avec Coréo et tout ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, Coréo Structure Aurillac, c'est une salle de remise en forme. Et après, nous, on développe le côté académie, le bail Coréo. L'idée, c'est de diffuser le sport santé. Et pour ça, accompagner à la fois les gérants de salles de sport à se positionner par le biais d'une formation, les éducateurs sportifs aussi par le biais d'une formation. Et pour joindre le tout, faire l'accompagnement longitudinal sur les deux années pour tout mettre en place au sein de la structure. Et nous, on permet de mettre tout ce qu'on a fait pendant 10 ans dans cet accompagnement. On met des formations de vente, de cours collectifs, de perte de poids aussi. On a tout mis à l'intérieur pour faire vraiment une offre de service qui aujourd'hui sur le marché n'existe absolument pas. En plus, on a des partenariats privilégiés au niveau du matériel de muscu qui est top, muscu cardio, des applications aussi. Donc, on a une offre clé en main qui défie toute concurrence et demain sur le marché, je pense qu'on va faire un beau chemin, c'est sûr, avec ces personnes.
Ok, bah top en tout cas. Merci, merci de ton partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour certains qui voudraient aller plus loin ou approfondir tout ça?
Sur LinkedIn, LinkedIn en général. Sinon, le mail, c'est formation@coreo-6concept.fr si jamais il y a des questions. On me retrouve aussi sur Fitness Challenge, les articles, comme toi aussi. Toi, tu es sur Coach Challenge, je crois, c'est ça. Mm-hmm. J'écris les articles pour Fitness Challenge sur le sport santé. Après, où est-ce qu'on peut me retrouver d'autres sur Facebook, évidemment. Et puis après, il y aura des conférences, des choses comme ça qui vont se mettre en place sur l'année. Et après, sur LinkedIn, vous pouvez me contacter. Je suis très, très rapide, très réactif.
Top. Merci Christophe. Merci tout le monde. Ouais, pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire à Christophe. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous.
Merci Christophe. Merci à toi. Salut.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.